La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Bonjour, je suis aujourd'hui avec Alain Blanchard, qui est professeur à l'université Paul Sabatier, Toulouse 3, cosmologiste de renommée internationale. Cosmologiste, ça veut dire spécialiste de l'origine et de l'évolution de l'univers dans son ensemble. C'est une discipline qui a elle-même beaucoup évolué depuis un siècle. Et tout le monde sait qu'on attend encore un monceau de découvertes et de nouvelles connaissances dans un proche avenir avec les observations effectuées par le nouveau télescope spatial James Webb. Nous aurons l'occasion d'en reparler en détail. Après une thèse effectuée à Paris sur le sujet des lentilles gravitationnelles, Alain a d'abord été enseignant à l'université Paris 7. Allez, je ne vais pas vous expliquer tout de suite ce que c'est que les lentilles gravitationnelles, mais vous verrez que c'est un sujet super important. Nous en parlerons avec lui. Plus tard, en 1993, Alain Blanchard a quitté Paris pour devenir professeur à l'université de Strasbourg, où il a créé une équipe de cosmologie. C'est en 1999 qu'il a quitté Strasbourg pour Toulouse, avec une partie de son équipe. Je me souviens de cette période entre 1993 et 1999. Vous savez que les scientifiques sont souvent de bons vivants. Ils sont sérieux, mais ils aiment aussi s'amuser. Et ils ne se désintéressent pas de la bonne gastronomie. Figurez-vous qu'il y avait à cette époque, en marge des réunions scientifiques, une compétition gastronomique entre les spécialités strasbourgeoises et les spécialités toulousaines. Je ne sais pas si ça a joué dans la décision d'Alain Blanchard de s'installer à Toulouse ou non. Il nous le dira peut-être lui-même. Très sérieusement, Alain Blanchard est membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Il a écrit deux livres pour le grand public, dont « Histoire et géographie de l'univers » aux éditions du CNRS Collection Belin. Il est auteur d'une centaine d'articles spécialisés et d'une quinzaine d'articles pour le public. Il anime aussi de nombreuses rencontres pour étudiants, ce qu'on appelle des écoles thématiques. Alain, la dernière école thématique que tu as animée cet été, c'était quoi ? Tu peux nous en parler un peu ?
Bien volontiers. Bonjour tout d'abord, merci pour cette description très sympathique. L'école, effectivement, c'est une école qui est organisée chaque année dans le but de renforcer, on va dire, la formation des étudiants qui sont intéressés ou qui sont engagés sur une thématique spécifique qui s'appelle l'énergie noire. C'est la problématique qui préoccupe le plus les cosmologistes actuellement. Et donc, on a une série de cours spécialisés sur ces thématiques en trois cycles. Les étudiants viennent pendant trois ans suivre chaque cycle. Et ça s'est passé cette année à Banyuls, et ça sera l'année prochaine ailleurs, et on tourne comme ça d'une année à l'autre.
C'est assez agréable, Banyuls, je connais. Il y a aussi un endroit, un très bel auditorium, et la possibilité de loger sur place. Enfin, c'est pas pour faire de la publicité pour Banyuls, mais c'est vrai que c'est un endroit où on peut avoir ce qu'on appelle des écoles d'été bien, bien agréables et en même temps intéressantes. Et c'est quels étudiants qui viennent ? Quel genre d'étudiants ?
Notre idée initiale, c'était de s'adresser à l'ensemble des chercheurs qui sont concernés par l'énergie noire et qui veulent approfondir un peu leurs connaissances, mais en pratique, ce sont essentiellement les étudiants en thèse ou ceux qui vont faire une thèse dans les années qui viennent qui sont le public.
Ça doit être 90%. C'est vraiment une spécialisation, quoi, en fait.
C'est complètement une spécialisation. Même dans la cosmologie, c'est assez spécialisé, on va dire.
Tu as parlé d'énergie noire. Moi, dans mon habitude, on parlait d'énergie sombre. C'est la même chose.
C'est la même chose.
C'est parce qu'en anglais, on dit dark energy.
Comme la matière noire et matière sombre. Il n'y a pas de vocabulaire estampillé par l'académie, je crois.
Mais les auditeurs voient qu'il y a des sujets vraiment intéressants dont on parlera plus tard, probablement dans une autre émission. Cette fois-ci, pour commencer notre discussion, je propose de parler un peu du télescope James Webb, parce que tout le monde en parle, sans toujours bien comprendre ce dont il s'agit, mais c'est extrêmement médiatisé. Alors, je vais d'abord dire quelques mots pour rappeler ce qu'est le télescope James Webb. Donc, c'est un télescope spatial qui a été envoyé dans l'espace à Noël dernier. C'est par hasard à Noël, hein, parce qu'en fait, il avait été beaucoup retardé, ce lancement du télescope. Et donc, son miroir principal, dont les auditeurs doivent savoir qu'un télescope, c'est essentiellement un miroir parabolique qui renvoie la lumière sur un autre petit miroir et qu'on analyse, on analyse la lumière à cet endroit-là. Donc le miroir principal du télescope James Webb à 6,50 m contre 2,50 m pour le télescope Hubble qui est dans l'espace depuis plus de 30 ans, 32 je crois. Donc le James Webb est beaucoup plus grand. En fait, il est intéressant de les comparer, ces deux télescopes, parce que beaucoup d'informations que nous avons actuellement sur l'univers viennent des observations du télescope Hubble, qui lui est dans l'espace depuis plus de 30 ans. Et il semble bien que le James Webb passe à une vitesse très supérieure, avec des performances inouïes, en fait encore plus extraordinaires que ce qu'on avait prévu. Et c'est dû à sa dimension, mais aussi à une autre grande différence, qui est son emplacement. Le télescope Hubble tourne autour de la Terre, à 600 km au-dessus du sol à peu près, et James Webb est à 1,5 million de kilomètres de la Terre et il tourne autour du Soleil. Mais il tourne autour du Soleil en même temps que la Terre, c'est-à-dire que quand il tourne autour du Soleil, il a toujours la Terre entre le Soleil et lui. C'est donc un emplacement qui n'est pas du tout le même et qui permet d'avoir de meilleures observations. En plus, les rayonnements analysés par les deux télescopes ne sont pas tout à fait les mêmes. James Webb observe beaucoup plus dans les rayonnements infrarouges que ce que faisait le télescope Hubble, qui était plutôt dans le visible. Alors justement, on reviendra plus tard sur ces observations de James Webb, mais pour l'instant, quel est l'intérêt d'envoyer dans l'espace un instrument qui observe plus l'infrarouge ? Ça nous ramène au fondement de la cosmologie, parce que bon, le fait que l'univers est en expansion, c'est lié au fait, au moins la découverte que l'univers est en expansion, est liée au fait que les galaxies lointaines nous envoient un rayonnement qui est plus rouge que prévu.
C'est ça.
Donc, on va peut-être parler de ça un petit peu, revenir au fondement de la cosmologie. Et le fondement de la cosmologie, finalement, c'est l'univers, enfin de la cosmologie moderne, c'est l'univers est en expansion. Qu'est-ce que ça veut dire, l'univers est en expansion ? D'où ça vient ? On peut peut-être faire un petit peu d'histoire aussi, qui date d'un siècle à peu près. Qui a découvert ça, enfin, sans aller très profondément dans l'historique, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ?
Bien sûr. Alors, pour resituer, d'abord, on peut rappeler aux gens que les étoiles qu'on voit dans le ciel, on en voit 5-6 000, je crois, à l'œil nu, c'est un sous-ensemble tout petit d'un paquet de plusieurs milliards d'étoiles, ce paquet qui a une forme de disque qu'on appelle notre galaxie. Et notre galaxie, ça a longtemps été
ce qui est la Voie lactée.
La Voie lactée.
Ce qu'on observe dans le ciel le soir quand il fait beau, sous la forme d'un ce qu'on appelle un chemin lumineux, un chemin laiteux. Hein. C'est un chemin laiteux, c'est de là que vient galaxie.
Absolument.
Voilà. Voie lactée. Mais en fait, c'est pas un chemin laiteux, c'est un ensemble de 200 milliards d'étoiles ou quelque chose comme ça.
C'est ça.
Dont fait partie le Soleil.
Tout à fait. Et d'ailleurs, n'importe quelle personne qui a une paire de jumelles l'été peut regarder cette Voie lactée et se rendre compte qu'effectivement, ce qui apparaît comme une bande lumineuse dans le ciel, c'est en réalité une myriade de petites étoiles qu'on voit. Et il faut croire les astronomes derrière qu'il y en a plusieurs milliards.
En fait, on peut dire quelque chose aussi, c'est que les étoiles qu'on voit dans le ciel par ailleurs font aussi partie de la Voie lactée, font aussi partie de notre galaxie. Simplement, comme elle a la forme d'un disque, quand on regarde dans la direction du disque, on voit beaucoup d'étoiles, donc ça fait ce chemin laiteux. Et quand on regarde perpendiculairement au disque, on voit des étoiles éparpillées dans le ciel. Mais enfin, ce qu'on voit à l'œil nu, c'est dans notre galaxie, toujours.
Tout à fait. Oui. Le seul objet, en fait, extra-galactique, en dehors de notre galaxie, qu'on puisse voir à l'œil nu, c'est ce qu'on appelle la grande galaxie d'Andromède. Qui se voit à l'œil nu par une belle soirée d'été sans trop de pleine lune, qui est un spectacle toujours intéressant, hein, puisque les astronomes utilisent le temps que met la lumière pour exprimer les distances. Hein, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde, et donc elle met déjà quelques années pour venir de l'étoile la plus proche, un peu plus de 4 ans. Elle met plus de 100 000 ans pour traverser la galaxie, notre galaxie, d'un bord à l'autre. Et elle met plus de 2 millions d'années à venir d'Andromède.
Qui est la grande galaxie la plus proche de nous.
C'est ça. Et je rappelle toujours aux gens qui ont la possibilité de faire cette observation, collectez avec vos yeux des grains de lumière qui ont voyagé pendant 2,5 millions d'années à 300 000 km par seconde. Et qui viennent
C'est-à-dire
mourir.
Qu'on voit le passé.
Et donc, effectivement, on voit la galaxie d'Andromède telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années, et non pas telle qu'elle est aujourd'hui.
C'est assez fabuleux, et c'est vrai pour tout ce qu'on voit dans le ciel.
C'est la force de l'astronomie ou de la cosmologie, c'est qu'on va pouvoir voir des objets pour lesquels la lumière a mis plusieurs milliards d'années à venir jusqu'à nous, et donc tels qu'ils étaient il y a plusieurs milliards d'années. Et au cours de ce voyage à travers l'espace, en raison de l'expansion de l'univers, on en reparlera plus tard, la lumière se décale vers le rouge. C'est un phénomène qu'on connaît sur les sons, par exemple. Quand vous écoutez une voiture de course à la télé, vous entendez un son qui change entre le moment où la voiture vient vers la caméra et elle s'en éloigne. Et ça, c'est un effet relatif. C'est la vitesse relative de l'objet qui vient vers vous, qui vous donne un son plus aigu, et quand il s'éloigne, ça vous donne un son plus grave. Pour la lumière, il se passe la même chose.
Donc ça veut dire que quand on regarde le ciel, c'est une sorte de mémoire, on voit l'univers dans le passé, et qu'en plus, le rayonnement qu'on voit est plus rouge que ce qu'il était quand il a été émis.
Exactement.
Donc on comprend bien, on commence bien à comprendre pourquoi c'est important d'observer dans l'infrarouge pour observer de plus en plus les galaxies très lointaines et mieux les voir. Donc c'est ce que fait et ce que va faire dans l'avenir le télescope James Webb. Et je pense qu'on a beaucoup à dire, on en reparlera la semaine prochaine, de cette expansion de l'univers, et comment ça a été découvert et ses conséquences. Donc on se revoit la semaine prochaine.
Bien volontiers.
À bientôt.